Bon.
J'écoute.
Elle a dit j'écoute comme les élèves au CP. Non, mais c'est pas le directeur qui est en train de parler. Hein. Mais Ayam, merci.
Moi, je vais être interviewée par la directrice.
Non, non, mais donc je reste. Donc merci, merci d'être avec nous. Hein. Et puis merci du travail sur l'écriture qui a été faite. Je sais que ce qui a été fait dans les classes de CE1, etc., ça tient beaucoup à cœur à tout le monde et ça tient beaucoup à cœur aux élèves. Mais ce festival des contes du Caire, enfin moi j'ai une petite idée, mais il vous tient particulièrement à cœur, mais pourquoi ? Pourquoi ce moment particulier du festival des contes ?
Le festival des contes du lycée du Caire me tient à cœur parce qu'il se passe dans mon lycée.
Oui, non mais ça c'est... ça, cher
Ayam, et donc j'y reviens.
Si je puis me permettre, ça on le sait, mais il y a autre chose encore. On veut savoir un peu, comme disent les Italiens, dietro le quinte, c'est-à-dire derrière le rideau, pourquoi ce moment particulier du Festival des Contes ? On sait que vous êtes conteuse, d'accord ? Vous avez écrit des contes, mais ça, bon, j'aimerais bien en parler tout à l'heure. Mais pourquoi ce moment précis ? Parce que, bon, en fait, vous pourriez... Moi, j'avais pensé, par exemple, à vous demander de venir à d'autres moments, mais je sais que vous tenez particulièrement à ce moment précis. Pourquoi ?
Vous savez des choses que j'ignore. Non, je tiens à ce moment précis parce qu'il se passe au printemps, que je viens au Caire au printemps. Il n'y a pas de raison particulière.
Ah, d'accord.
Et vous m'inviteriez en décembre.
Vous viendriez en décembre.
Je viendrai.
Mais je sais que j'avais une petite idée que le printemps, les bohémiens en fleurs et la beauté du Caire au printemps, vous...
C'est sûr que c'est nettement plus agréable de quitter Paris sous la grêle et d'arriver au Caire que de quitter... Paris fleuri pour un Caire brûlant.
Bien.
Mais bon. Je vous assure que ça ne joue pas du tout.
Non mais je vous crois, moi.
Dans ma fidélité.
Bien, alors j'ai lu un seul de vos ouvrages, Les Contes de la Nubie.
Il me sera désormais le plus précieux.
Ne flagornez pas, je vous en prie.
Je commence. Maintenant c'est à vous.
Donc maintenant c'est à moi. Donc, vous l'avez recueilli auprès d'un conteur nubien de 80 ans au Caire.
Oui.
Ça, c'est ce que j'ai lu dans la préface. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé, mais je me suis posé une question, parce que je suis amateur de contes et de collectes. Oui. Et c'est assez rare. Je dis généralement, bon, on part de collectes écrites. Et là, c'est l'une des rares fois où on est parti d'un conteur vivant et qu'ensuite, on a écrit. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que vous avez fait, j'allais dire, pour convaincre ce conteur qui lui-même tenait ses contes de sa mère.
Oui.
Donc, c'est des contes qui avaient été entendus par cette dame il y a pratiquement une centaine d'années. Hein. Comment est-ce que vous avez réussi à le convaincre ? Et puis, comment est-ce que vous avez réussi à l'écrire sans être... J'allais dire sans avoir la peur de trahir ce qu'il vous avait dit, parce qu'on sent quand même, bon, vous l'avez écrit, mais c'est quand même un témoignage.
Vous avez parlé italien tout à l'heure, donc vous savez que traduire, c'est trahir.
Bien sûr.
Et donc, si on a peur de trahir, on ne traduit pas et on n'écrit pas. N'est-ce pas ? Traduire ses sentiments en mots, traduire la beauté du monde, c'est sûrement un peu la trahir. Donc la peur de trahir, c'est une peur qu'on ne connaît pas du moment qu'on prend la plume, ou qu'on tâche d'ignorer, même si elle vous hante. Et l'histoire de ce conte, de ces contes nubiens, je suis heureuse que vous parliez de cela, parce qu'en réalité, c'est ceux qui me tiennent le plus à cœur. Les contes de ma grand-mère, cela m'a fait énormément plaisir de les retrouver et de les partager. Mais les contes nubiens, c'est une toute autre histoire. J'ai rencontré par hasard cet homme qui s'appelle Ibrahim Shahraoui, qui est très âgé, mais je ne sais pas exactement son âge, lui-même ne le sait pas vraiment. Admettons qu'il soit millénaire aux yeux du souvenir. Il a plus de souvenirs que s'il avait 1000 ans. Et c'est un conteur, ce n'est pas un Nubien qui connaît des contes, c'est réellement un homme qui exerce, si l'on peut dire, puisque ce n'est pas rémunéré, le métier de conteur. Et donc ça, c'était très intéressant. C'est pas simplement une source, une bouche. Non, c'est un conteur. Et donc, il connaît non seulement des contes nubiens dont la plupart n'ont jamais été écrits auparavant.
D'accord.
Pas même en arabe. Pas même en arabe. Les Nubiens ne parlent pas l'arabe. Il connaît les contes et il connaît aussi la tradition de conter en Nubie. Et ce qui était pour moi très, très intéressant et bouleversant, c'est que lorsque j'ai fait sa connaissance, je me suis présentée avec mon appareil à enregistrer dans son appartement en centre-ville, où il était seul, où il m'a reçu seul, ce qui est peu commun en Égypte. Je frappe à sa porte, il m'ouvre, et là, il m'offre un jus de goyave et se met, alors que je l'interrogeais sur ses comptes, sur sa vie, etc., se met, lui, à me poser des questions. Il ne me dit pas « Qui es-tu ?» mais « Qui est ton père ?» Je dis « Qui est mon père ?»« Qui est ta mère ?»« Qui est ton grand-père ?»« Qui est ta grand-mère ?» Et je réponds à toutes ces questions en me disant « Le temps passe, j'ai 2 heures à passer ici, j'ai un programme chargé. » Et j'ai assez vite compris qu'il n'y avait pas de programme chargé qui compte. Il devait, avant de me raconter, s'assurer que j'avais bien compris qu'il allait déverser sur moi quelque chose de précieux, m'offrir quelque chose de précieux, et qu'il ne comptait pas l'offrir à n'importe qui.
Ni à moitié.
Ni à moitié.
D'accord.
Et nous avons passé la première séance tout entière à cet interrogatoire, d'où il ressortait seulement, non pas qu'il était agent de police, mais qu'il me faisait prendre conscience qu'il allait m'offrir quelque chose parce que j'étais moi. Et qu'il fallait que je comprenne bien qu'il savait qui j'étais maintenant, puisqu'il connaissait le nom de mon père, de ma mère, de mes grands-pères, de mes grands-mères, etc. Et qu'à partir de là, je devais tenir parole, puisque quelqu'un qui n'est rien, ni personne, n'a pas de parole. Mais maintenant qu'il m'avait enraciné dans l'histoire de ma famille, alors j'étais tenue par sa parole et la mienne. Et ça, c'était extraordinaire. C'était la première séance. Elle a duré plus de 2 heures et j'ai dû rentrer chez moi. À la deuxième séance, quand je suis venue encore une fois, il a dit « Bien, je vais raconter une histoire. Enfin, me dis-je. Eh bien, je ne veux pas que tu m'enregistres. » Catastrophe. Je sors de mon sac un calepin, un crayon, pour prendre des notes à la grande vitesse, comme à la fac. Il me dit « Non, je ne veux pas que tu prennes des notes. » Donc il voulait que j'écoute et que je retienne par cœur, en l'écoutant, les contes qu'il allait me raconter. Ce qui est assez prodigieux. C'était une autre idée de l'exactitude, je trouve. Il tenait à ce que le conte reste vivant entre lui et moi.
Oui, c'est-à-dire vous parvienne comme il était élu.
Comme il lui était parvenu à lui.
À lui.
Comme il était parvenu à lui. Et je dois dire que c'est un homme, s'il est encore vivant, ce que j'espère, d'un très grand talent. Un très grand talent. Par la suite, je l'ai invité au Centre culturel du Caire, en me disant, est-ce que ça va marcher, cet homme d'une autre génération, etc., avec des enfants un peu distraits, un peu agités. Ils ont été distraits et agités pendant moins de 3 minutes. Il avait un tel talent qu'ils se sont tous rapprochés de lui et écoutés en silence, sans un mot, les yeux écarquillés. C'est un homme d'un très grand talent. Et sûrement, mon livre ne lui rend pas justice. Mon livre a le seul mérite d'avoir enfin imprimé et conservé trace de ces histoires qui, je pense, se perdent.
Oui, parce qu'en fait, c'est la seule trace écrite de ces histoires.
Il y en a sûrement.
Sûrement d'autres, mais enfin, en tout
sûrement
cas...
Sûrement d'autres. Moi, j'ai fait pas mal de recherches sur ce qu'il m'a raconté. Je n'en ai pas trouvé.
Mais en fait... De ces contes de Nubie, donc vous êtes la seule, en tout cas, à mon avis, à l'avoir fait en français. Enfin, y a pas de...
Je n'en connais pas d'autres, je ne peux pas vous dire avec certitude. Il y a une autre chose intéressante dont je me souviens, c'est extraordinaire, c'est quand il avait terminé de me raconter l'histoire de la septième fille qui est une fille. C'est une histoire absolument extraordinaire parce que tous les spécialistes des contes du monde entier vous diront l'image de la femme dans les contes est désastreuse. Cendrillon est une sorte de bonne, de super domestique. Blanche-Neige est niaise. Le petit chaperon rouge est débile. Sa mère est irresponsable. L'envoie dans la forêt. Sa grand-mère est malade. Et en fait, on a, c'est vrai, des séries de femmes assez particulières, dévouées aux tâches domestiques jusqu'à un prince, heureusement, vienne les sauver. Des mères irresponsables qui envoient leurs enfants dans la forêt se faire dévorer par les loups, et des filles particulièrement débiles. Ça n'est pas vrai. Ça n'est juste pas vrai. Et donc, ce qui est extraordinaire dans cette histoire nubienne, c'est que voilà un père qui a 7 filles, et c'est la cadette de ses filles, la moins importante de ses filles, qui va le sauver. Et montrer que les 7 garçons dont leur oncle se vante sans cesse, parce qu'il y a un père qui a 7 garçons qui est très fier, qui marche en gonflant sa poitrine, et un pauvre type qui a 7 filles. Et elle va montrer à la fin de son aventure que les 7 garçons sont ce qu'il y a de pire en Nubie, des esclaves. Et il vaut mieux être une femme qu'un esclave. Il est extraordinaire, ce conte est extraordinaire. Il y a un travesti, elle est travestie en garçon, en plus, c'est invraisemblable. Il tenait beaucoup, pardon, je vous interromps juste une seconde. Il tenait beaucoup à une chose, c'est que lorsqu'il savait qu'il y aurait des illustrations dans le livre, il ne voulait pas qu'on représente les esclaves. J'ai trouvé ça assez extraordinaire. Il me l'a fait promettre.
Parce que moi, j'ai trouvé dans ses contes, bon, je connais un peu la littérature, je dirais, légère qu'il y a au Moyen-Orient, puisque j'ai passé mon enfance au Moyen-Orient, donc on m'a raconté quand même beaucoup d'histoires. Et là, j'ai trouvé que ça avait quand même un parfum d'antiquité, ces contes de Nubie. On avait l'impression que c'était des contes d'une Égypte, bon, qui existe, qui est toujours là. Mais à les lire, on avait l'impression qu'on était en train de lire des contes très anciens. Vraiment très anciens, parce qu'ils parlaient... Enfin, moi, ils m'ont donné l'impression de parler d'une société qui n'est pas celle que je vois. Bon, je connais très mal la Nubie, hein, mais...
Non, d'abord, c'est une société nubienne. Donc, en effet, très... très ancienne et sûrement plus immobile que l'Égypte, tant de fois envahie et tant de fois irriguée par des idées neuves, des langages nouveaux, etc. En effet, la Nubie a gardé vivante beaucoup de traditions et sa langue notamment. Et ce qui est en effet très ancien, c'est que les contes nubiens sont très directement didactiques. Il y a ce conte très étonnant où en fait un petit garçon promène des excréments dans un panier en disant c'est un trésor, et ça produit sur nous un effet de comique, mais ça n'est pas comique. Dans la Nubie menacée par le désert, l'engrais qu'est l'excrément est ce qu'il y a de plus précieux. C'est plus précieux que l'or, puisque c'est avec ça que l'on va...
Et que l'on va nourrir sa famille.
On va nourrir sa famille.
Aussi, donc, aussi paradoxal donc y a que ça puisse
être. Ça, c'est très ancien. C'est-à-dire les contes, on raconte des contes aux enfants afin de leur apprendre les rudiments de leur culture et les choses essentielles. Les vertus, les défauts, etc.
Bon, si vous permettez, on va peut-être abandonner la conteuse. Je me suis laissé dire que vous étiez aussi philosophe. J'ai lu quelques articles. Mais alors, vos domaines d'investigation en philosophie, quels sont-ils ?
C'est une question très difficile, parce que la philosophie prend dans une vie réelle plusieurs formes. Une fois que l'on a fait des études de philosophie, ce qui est indispensable pour se dire philosophe, on peut enseigner la philosophie, ce que je ne fais pas. On peut chercher en philosophie, ce que je ne fais pas, et on peut simplement conserver cette attitude héritée des études de philosophie, qui est une attitude critique, une attitude de l'esprit, pour tout ce que l'on fait. Et il me vient parfois des doutes, d'ailleurs, ce qui est assez typique d'une formation philosophique, sur la qualité de mon écriture. Je me dis, est-ce que ça n'est pas exagérément travaillé par l'idée, par le concept ? Et souvent, mon travail consiste à me débarrasser de ma formation de philosophe, que je ne regrette absolument pas, et si c'était à refaire, je referais des études de philosophie. Je pense que tout le monde en devrait en faire plusieurs années, et non pas une seule.
Donc vous acceptez que l'on dise que Madame Ayam Suro est aussi une philosophe?
Certainement, oui, certainement.
Alors vous êtes très engagé, hein, les contes, la philosophie, mais vous êtes très engagé par ailleurs aussi, dans d'autres domaines. Vous pouvez en parler? Domaine, je dirais, de l'action sociale, internationale, etc. Je sais que vous faites partie d'associations. Vous...
Alors, comment diable avez-vous pu savoir cela?
Vous savez qu'un directeur est toujours très bien informé. Non, mais ça m'intéresse parce que moi je connaissais Ayam Suro, conteuse, écrivain, philosophe. J'ai découvert philosophe et puis j'ai aussi entendu parler d'un engagement dans certaines associations, etc.
Je vais vous parler.
Mais très rapide, je voudrais pas être indiscret.
On va parler. Oui, bien. Vous n'êtes pas indiscret du tout. Mais on va en parler rapidement parce que ça n'a pas grande importance. C'est quelque chose qui me concerne, moi. Il se trouve que, comme vous savez, en France arrivent beaucoup de personnes étrangères qui vont ou ne vont pas vivre en France, mais en tout cas qui ont un problème essentiel, c'est qu'elles ne parlent pas le français. Et donc, adultes se mettent à l'apprendre, et c'est vital pour elles de l'apprendre, puisqu'elles vont ou ne vont pas vivre en France. Et j'ai pensé que, ayant moi-même appris le français très tard, ayant encore en mémoire la difficulté que c'était d'apprendre le français pour quelqu'un qui ne le parlait pas, aimant le français passionnément, non seulement je pouvais, mais je devais aider des personnes qui, très tard, tâchent de l'apprendre. Et peut-être que j'aurais l'avantage sur des Français francophones nés français de mieux comprendre la difficulté que c'est pour un étranger d'apprendre le français. Et donc j'ai décidé, comme j'avais eu cette chance extraordinaire qui aura finalement décidé de ma vie entière d'apprendre le français, j'allais en donner un peu. Voilà. Et donc c'est en effet quelque chose qui me concerne au plus intime de moi-même.
Donc j'ai été vraiment indiscret.
Non, vous n'êtes pas indiscret, mais je vous réponds la vérité.
Bon, merci beaucoup. Et c'était une belle rencontre avec Ayam Suro, que je n'avais croisé que dans la cour de récréation, où j'avais aussi épié ses ateliers. J'ai lu ses contes, j'ai lu quelques articles aussi. Mais j'ai rencontré une ancienne élève, mais aussi une grande dame. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'était très agréable.
Merci.
Oui, comment on a pu